aime Dieu pour lui-même parce qu'il est bon. Et parce qu'il est souverainement bon. Et c'est pour ça que j'aime Dieu. Et je l'aime à cause de sa propre bonté. Et pour sa propre bonté. Et sa bonté, c'est sa substance. Donc c'est lui que j'aime. En tant qu'il est Dieu. La divine bonté, qui est la réalité substantielle de Dieu, suivant le psalmiste, louez le Seigneur car il est bon. Quant aux autres motifs qui nous inclinent à l'aimer, ou qui nous font un devoir de l'aimer, ils viennent en second et dérivent du premier. Donc les autres raisons, parce que ça peut y avoir d'autres raisons, tu vois, je t'ai vu sous le figuier, c'est une motivation. C'est pas le motif pour lequel, de fait, Nathanaël va se mettre à suivre Jésus. Mais ça l'a réveillé. Comment me connais-tu? Je t'ai vu sous le figuier. Jésus montre qu'il a eu un regard sur Nathanaël avant que Nathanaël l'ait connu. Ça arrive dans notre vie. Quelquefois, Dieu nous précède et nous fait comprendre qu'il est là. Je t'ai vu sous le figuier. C'est n'importe quoi, je t'ai vu sous le figuier. C'est... Vous avez dégringolé, vous avez eu un accident. Grâce à cet accident, vous avez dit « Ah, ma vie éternelle !» Alors, à ce moment-là, vous entrez immédiatement à Bethléem. Alors, vous voyez, c'est qu'il y a des motifs multiples qui nous montrent notre précarité, donc qui nous ont réveillés. Des motivations multiples. Le psychologue regardera cela. Alors qu'au point de vue divin, il dit « Oui, Dieu s'est servi de ça. Un coup de bâton donné en chine peut nous donner la grâce. » C'est bien évident. Il y a quelqu'un qui a prié pour vous depuis très très longtemps, ça vous a donné la grâce. Alors, à ce moment-là, la grâce n'est pas la motivation. Vous n'aimez pas Dieu à cause du coup de bâton. Vous aimez Dieu parce qu'il est bon. Et que vous avez découvert sa bonté. Et votre unique amour, c'est Dieu parce que Dieu est bon. Mais évidemment, la manière dont on a découvert cette bonté est multiple. Les chemins sont multiples. Dieu nous a secoué de multiples manières pour que nous découvrions sa bonté. Et lorsque nous donnons à lui, c'est dans l'amour et c'est à cause de sa bonté. Et c'est toujours à cause de sa bonté. Alors, dernière objection, la charité inclut l'amitié pour le prochain. Or, le philosophe pose plusieurs espèces d'amitié. La charité n'est donc pas une vertu unique, mais vertu multiple se divisant en espèces différentes. Alors, réponse. Les amitiés humaines dont parle le philosophe ont des finalités différentes et représentent des commerces amicaux, des communia, hein, des commerces amicaux qui sont bien distincts, ce qui n'a pas lieu dans la charité. La comparaison n'a donc pas de raison d'être. Donc la ratio n'est pas semblable, la raison n'est pas semblable. C'est bien évident que lorsqu'il s'agit d'amour d'amitié au point de vue humain, il y a divers types d'amitié humaine. Parce que justement, ces amitiés humaines se font selon des koinonia, des communications, des mises en commun différentes. Quand il s'agit de Dieu, il n'y a qu'une seule mise en commun, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas tel ou tel bienfait, vous voyez. Ça, ce serait l'amitié de fonctionnaire. Dieu vous a donné une qualité merveilleuse, il vous a donné l'intelligence et la capacité artistique. Vous aimez Dieu parce qu'il vous a communiqué le point de vue de la qualité artistique. Alors vous aimeriez Dieu à cause de ses qualités à ce moment-là, des qualités qu'il vous a communiquées. Vous ne l'aimeriez pas pour lui-même. Et ce ne serait pas la charité. Oui. Ce serait aimer Dieu pour telle ou telle qualité que Dieu m'a donnée.
Quand on oppose tout ce qu'on oppose en vie. On compare toujours vertu et amitié. Est-ce que l'amitié, c'est pas pris parfois comme une relation? Ici, c'est pas comme une relation, puisqu'à chaque fois, on voit le fondement de la communion.
Oui.
Et l'article d'avant serait pris comme action, question, action finalisée.
Non, je crois pas. Je crois que quand on prend le point de vue de l'amitié, on prend avant tout le point de vue de la relation de finalité qui s'établit avec Dieu. L'amitié touche la finalité. C'est la finalité. C'est que l'ami, c'est mon bien. C'est ma fin. La vertu regarde le quelque chose de créé qui est posé dans mon âme et qui m'ennoblit. Et qui me permet de répondre. Vous voyez ? Autrement dit, quand je regarde l'analogie de l'amitié, je suis très sensibilisé à ce fait que j'aime directement Dieu. et qu'entre Dieu et moi, il y a ce fait que je l'aime comme ma, comme mon bien. C'est toujours ça que saint Thomas prend. Et que c'est, ceci implique une finalité, une communication. C'est Dieu qui me communique sa bonté. Et parce que Dieu me communique sa bonté, il s'établit entre moi et lui une relation d'amitié. Mais une relation d'amitié qui est une relation qui peut toucher ma fin. Cette amitié va imposer, va réaliser en moi quelque chose de créé, c'est quelque chose de reçu. Et ce quelque chose de reçu, c'est une vertu. Et par là, je montre comment je peux répondre. La vertu me fait comprendre comment je réponds librement. La charité en tant que vertu montre comment je suis ennobli par cette charité, par cet amour, par cette communication divine qui m'est donnée, et que cette communication divine va saisir ma volonté pour que je réponde librement. Oui, je crois que c'est plus... Oui, c'est ça. C'est beaucoup plus l'acte. La vertu, vertu opérative, habitus opératif. Oui. Et donc, c'est beaucoup plus le sujet ennobli. Et de l'autre côté, c'est la finalité. Alors, les deux se tiennent tout le temps. Vous voyez, enfin, toute cette question, hein, elle est commandée par ces deux analogies. Ça, c'est très net. Et ces deux analogies jouent tout le temps l'une par rapport à l'autre. Vous voyez.
Et là, le fait qu'on parle tout le temps de koinonia, c'est que ça fait penser au fondement.
Oui, c'est le fondement, si vous voulez. Mais comprenons bien, hein, dans cette relation, le fondement, c'est l'objet même. Oui, alors il faut faire attention. Il faut faire attention, parce que si vous preniez uniquement un fondement, vous ne regarderiez que l'aspect formel de, de l'amitié. Or, ici, la charité me montre beaucoup plus que la charité me fait atteindre ma fin. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce que la koinonia et la relation sont identiques. C'est le problème de la charité. Bon, alors, la charité est-elle la plus excellente des vertus ? Oui, là, c'est toute une série. Vous voyez, comme le développement du côté de la vertu est beaucoup plus que le développement du côté de l'amitié. De fait. Mais je suis fait appel à l'amitié pour l'amitié reste l'analogie dominante. Alors, saint Paul, après avoir énuméré la foi, l'espérance et la charité, dit « De ces trois, la plus grande est la charité. » Maior aurum est caritas. Conclusion en anglais. L'argumentation théologique. Et c'est très mauvais de mettre conclusion, hein, parce que c'est l'argumentation théologique qu'on devrait mettre. C'est pas là, du tout, c'est la conclusion. Puisque les actes humains sont bons pour autant qu'ils sont conformes à la règle qui leur convient. Nous commençons à le savoir. Hein. Donc, puisque les actes humains sont bons en tant qu'ils sont conformes à la règle qu'il convient. Il est nécessaire que la vertu humaine, principe des actes bons, consiste à atteindre la règle des actes humains. Or, il y a deux règles des actes humains, la raison humaine et Dieu. On reprend exactement la même chose. Mais Dieu est la règle première sur laquelle la raison humaine doit elle-même être réglée. C'est pourquoi les vertus théologales, qui consistent à atteindre la règle première, puisque leur objet c'est Dieu lui-même, sont plus excellentes que les vertus morales et intellectuelles, qui consistent à atteindre la raison humaine. C'est pourquoi parmi les vertus théologales, celle-là sera plus excellente qui atteindra Dieu davantage. Or, toujours, ce qui est par soi est plus grand que ce qui est par un autre. Alors là aussi, ça c'est un petit, grand petit principe. Propter quod opportet quod etiam inter ipsas virtutes theologicas, illa prior quies magis, donc celle qui atteint plus immédiatement Dieu. Semper otem illud quod est per se, magis est eo quod est per alium. Mais là, c'est le principe très net. Ce qui est immédiat, per se, est toujours plus parfait que ce qui est toujours antérieur et plus parfait que ce qui est per alium. Or, la foi et l'espérance atteignent Dieu immédiatement, sans doute. Mais pour autant que par lui, nous arrive la connaissance de la vérité et la possession du bien, tandis que la charité atteint Dieu lui-même et pour rester en lui, pour demeurer en lui, et non pas pour que de lui quelque chose nous provienne. C'est pourquoi la charité est plus excellente que la foi et l'espérance, et par conséquent plus excellente que toutes les autres vertus morales, qu'atteignent la raison en tant que celle-ci établit le juste milieu dans les opérations et les passions humaines. C'est très facile à comprendre. Vous voyez le raisonnement de cet article. Hein? Raisonnement de cet article, il a deux parties. Hein? Première partie, les vertus théologales sont plus parfaites que les vertus morales. Pourquoi ? Parce que les vertus théologales atteignent directement la mesure par excellence qui est Dieu. Les vertus morales atteignent uniquement la vertu, la droite raison qui provient de la prudence. Deuxièmement, parmi les vertus théologales, la première est la charité. Pourquoi ? Parce qu'elle atteint plus immédiatement Dieu. C'est ça qui est important à saisir. Elle atteint plus immédiatement Dieu. Tandis que la foi et l'espérance, ils atteignent bien Dieu, ce sont des vertus théologales. Mais ce sont des vertus théologales qui n'atteignent pas pleinement et totalement Dieu. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a l'aspect de l'obscurité de la foi et l'aspect de la pauvreté de l'espérance. L'obscurité de la foi fait que la vérité que j'atteins dans la foi, je l'atteins par un mode obscur. Donc, je ne l'atteins pas d'une manière totale. La foi est toujours partielle. Il n'y aura que la vision béatifique qui sera totale. Et l'espérance aussi. Il y a un certain mouvement dans la foi et l'espérance. Tandis que dans la charité, c'est Dieu lui-même qui se donne à moi, en totalité. C'est pour ça que la foi et l'espérance passeront, la charité ne passera pas. Parce que par la charité, je vis déjà ce que je vivrai éternellement. Mais déjà donné la plénitude de Dieu. C'est ça qui fait la contemplation. Une fois que je comprends que la plénitude de Dieu m'est donnée dans la charité, je n'ai plus qu'à contempler. Plus rien à faire, d'autre que d'aimer. Vous voyez ? Tandis que la foi et l'espérance commandent, eux, le conditionnement de ma vie intellectuelle. Alors, voyons la première objection. La vertu qui se trouve dans une puissance supérieure sera elle-même supérieure, de même que l'opération de cette puissance. Mais l'intelligence est supérieure à la volonté, puisqu'elle la dirige. Donc, la foi qui est dans l'intelligence est supérieure à la charité qui est dans la volonté. Nous avions déjà vu cette question des rapports entre la volonté et l'intelligence. Vous voyez, nous y reviendrons ici. Alors, dans l'objection, on dit, puisque l'intelligence est plus noble que la volonté, c'est vrai, l'intelligence a une noblesse plus grande. Donc, la vertu qui vient perfectionner l'intelligence est supérieure à la vertu qui vient perfectionner la volonté. C'est pas bête comme raisonnement. Mais là, on est coincé. Et alors, à ce moment-là, vous mettez une dualité entre la perspective philosophique et la perspective de foi. Alors, saint Thomas va répondre. L'opération intellectuelle s'accomplit en tant que ce qui est connu est dans l'intelligence. C'est pourquoi la noblesse de l'opération intellectuelle se prend à la mesure de l'intelligence. L'opération volontaire et l'opération de toute puissance affective s'accomplit en tant que celui qui veut ou désire tend à la réalisation comme au terme de son vouloir ou de son désir. C'est pourquoi la dignité de l'opération affective se mesure à la réalité qui en est l'objet. Enfin, c'est très très joli comme manière de regarder hein, les deux. Les réalités inférieures à l'âme sont donc dans l'âme qui les connaît, dans un mode d'être plus noble qu'elles ne le sont en elles-mêmes. Quand vous connaissez le chat, du fait même que vous le connaissez, a une noblesse plus grande dans votre connaissance que dans sa réalité. Qu'il ne faut jamais oublier. Donc les réalités inférieures à l'âme, le petit chat, sont dans l'âme qui les connaît, dans un mode d'être plus noble qu'elles ne le sont en elles-mêmes. Car tout ce qui vient dans un autre participe à son bol. Donc le chat, du fait même qu'il est connu, a une noblesse unique. Une noblesse qui est la noblesse de votre intelligence. C'est pour ça que saint Thomas dit qu'il vaut mieux connaître le chat que de l'aimer. Parce que quand vous l'aimez, vous inclinez vers lui. Quand vous le connaissez, vous l'amenez vers vous. Vous portez en vous ce que vous connaissez. Tandis que vous êtes incliné vers ce que vous aimez. Alors évidemment, quand il s'agit du petit chat, ben votre inclination est assez basse. Hein, vous devez ramper et vous mettre au niveau du chat. Tandis que quand vous le connaissez, vous n'avez pas besoin de vous pencher. Vous l'assumez. Au contraire, Les réalités supérieures à l'âme sont dans un mode d'être supérieur à celui qu'elles ont dans l'âme, qui en prend connaissance. Et c'est pourquoi connaître les réalités inférieures à nous est plus noble que de les aimer. Aussi le philosophe a-t-il fait passer les vertus intellectuelles avant les vertus morales. Mais l'amour des réalités qui nous sont supérieures, et de Dieu principalement, est préférable à la connaissance que nous en avons. Aussi, la charité excelle-t-elle sur la foi. Hein, vous voyez bien cette chose extraordinaire. Ça, c'est très beau. Ça demande d'être médité longuement. Parce que c'est un partage merveilleux des eaux, hein. Les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Hein. Vous voyez que ce n'est pas la même chose. Hein. Ce n'est pas la même chose. Quand il s'agit des réalités supérieures à moi et des réalités inférieures à moi. Les réalités inférieures à moi, il vaut mieux les connaître que de les aimer. Les réalités supérieures à moi, il vaut mieux les aimer que de les connaître. Ça va très loin, ça. Mais ça, c'est le choix de la vocation. Si j'aime Dieu, il vaut mieux l'aimer plus que de vouloir les connaître plus. Parce que Dieu est plus grand que moi. Tandis que c'était me donner à quelqu'un qui est inférieur à moi, ah, il vaudrait beaucoup mieux le connaître que de me mettre à son service. Oui. Ça, c'est la clé de tous les problèmes. C'est la clé de tous les problèmes. Si on essaie de comprendre bien. C'est la clé de tous les problèmes. Et c'est la clé de notre paix intérieure. C'est ça qui permet toutes les confusions qui sont dans un domaine-là. On dit, ah, la connaissance est supérieure à l'amour. Attention, attention, ça dépend pourquoi. Avec le discernement, discernez bien les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Quand il s'agit des réalités qui sont inférieures à moi, il vaut mieux les connaître que les aimer. C'est évident, parce que quand je les aime de trop, je colle à eux. Et si j'aime trop le petit chat, je ne pense plus qu'au chat. Je ne peux pas m'en séparer. Je ne peux faire oraison que si le chat est là. Si le chat n'était pas là, je ne ferais pas oraison parce que je pense à lui. Tirer. Où est-ce qu'il est, mon petit chat? Il est en train de prendre du lait, il est en train de prendre du lait, il peut prendre aussi. Alors, vous voyez, je ne penserais plus à lui. Donc, je ne pourrais pas faire oraison. Je ne pourrais pas. Je suis collé au chat. Tandis que le connaître ne me colle pas au chat. Je suis libre quand je connais. Je suis très libre. Je connais le chat, oui, je sais bien. Je sais bien ce qu'il est. Mais j'aime mieux aimer Dieu. Alors, aimer Dieu fait que toujours Dieu est présent. Parce que je l'aime. Oui. Discernement très important. Ça fait comprendre la supériorité, vous voyez. L'objection disparaît complètement quand on voit ça. C'est vrai que l'intelligence a une noblesse particulière. C'est très vrai, la noblesse particulière. Mais quand il s'agit des réalités supérieures à moi, or Dieu est une réalité supérieure à moi, il vaut mieux l'aimer. Donc la charité passe avant la foi. Deuxième objection. Ce par quoi un autre agit semble bien être inférieur à cet autre. Le serviteur que le maître emploie à ses travaux est inférieur à celui-ci. Or saint Paul dit que la foi agit par l'amour. La foi est donc plus excellente que la charité. Alors, réponse. La foi n'opère point par la charité, par manière d'instrument, comme le maître opère par son serviteur. La foi opère par la charité comme par une forme qui lui est devenue propre. C'est la foi vivante, vous voyez. Elle opère par la charité comme par une forme qui lui est devenue propre. Sicut per forma propriam. Par conséquent, la charité n'est pas pour autant inférieure à la foi. Mais derrière cette objection, ça secoue des vieux meubles. Hein. C'est évident, on voit très bien. Alors, troisième objection, ce qui existe par quelque chose qui s'ajoute à une autre chose est plus parfait que cette dernière chose. Or, l'espérance existe par quelque chose qui s'ajoute à la charité. Car l'objet de la charité, c'est le bien. Et l'objet d'espérance, c'est le bien difficile. L'espérance est donc plus excellente que la charité. Pour les sportifs, vous voyez, c'est le côté sportif de notre vie, l'espérance. Et c'est vrai, c'est le côté sportif, c'est le côté de l'efficacité, il faut, faut l'emporter dans le combat. C'est ce que diront certains. Plutôt que de vous réfugier sur la colline, sur une haute, haute montagne, soyez dans le combat. Et alors, vous aurez beaucoup plus de mérite. Vous aurez beaucoup plus de mérite, là, vous vous réfugiez. Alors, réponse de saint Thomas. Sans doute, le même bien est objet de la charité de l'espérance. Le même bien. Idem bonum. Est objectum caritatis et specie. Mais la charité réalise l'union à ce bien. Donc la charité implique, c'est pas réalise, hein, importa, c'est plus fort, c'est plus fort. La charité implique l'union à ce bien. Tandis que l'espérance implique qu'on en reste à distance. Donc implique une certaine distance, c'est pas qu'on en reste à distance, une certaine distance de lui. Il suit qu'à la différence de l'espérance, la charité ne considère pas ce bien comme difficile à conquérir. Ce qui nous est uni n'est plus difficile à atteindre. Il ressort de tout ceci que la charité est plus parfaite que l'espérance. Oui, c'est tout simplement. C'est plus parfait d'être uni au bien, et par le fait même que je suis uni au bien, le bien est plus difficile, puisque je suis uni au bien. Que de considérer que le bien est difficile parce que je ne suis pas uni. Et ça, c'est très très important, vous savez. Il y a des spiritualités qui sont toujours pour ce qu'il y a de plus difficile. Ça existe, ça. Il y a des spiritualités comme ça, qui sont toujours pour ce qu'il y a de plus difficile. Ce qu'il y a de plus difficile est toujours ce qu'il y a de plus parfait, mais pas du tout. Là où il y a le plus d'amour, c'est ce plus parfait. Et si vous êtes uni au bien, c'est moins difficile. Restez le plus possible uni à Dieu. Alors à ce moment-là, mais ce sera plus facile de faire oraison, parce qu'on est toujours uni à Dieu. Vous allez dire, alors j'aurai beaucoup moins de mérite, parce que l'oraison sera moins difficile. ça existe. Vous voyez bien le genre de spiritualité, ça existe ce genre-là. Alors on veut le difficile, c'est le difficile. C'est le difficile qui est le plus méritoire, donc c'est le difficile que tu dois chercher. J'appelle ça la mentalité du sportif. C'est très très bien au niveau d'exercice. Au niveau d'exercice, vous cherchez toujours des choses plus difficiles. Mais pas au niveau contemplatif. Au niveau contemplatif, vous cherchez là où il y a le plus d'amour. C'est la différence entre l'efficacité et la finalité. Si j'ai une mentalité d'efficacité, je chercherai sur le plus difficile. Si j'ai une mentalité d'amour, de finalité, je cherche là où l'amour est plus grand. Parce que l'amour n'a pas besoin de l'efficacité, tandis que l'efficacité a besoin de l'amour. Donc l'amour est supérieur. Article 7. Sans la charité, peut-il y avoir de véritables vertus? Donc on a vu, vous voyez, que la charité était la vertu par excellence. Si la charité est la vertu par excellence, je peux me demander si la charité, de fait, c'est la seule vertu. Est-ce qu'il y a d'autres vertus avec et sans la charité? Sans la charité, peut-il y avoir de véritables vertus? La réponse. L'apôtre dit, quand je distribuerai toutes mes ressources pour nourrir les pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne m'est profitable en rien. Mais la vraie vertu, d'après la sagesse, est grandement profitable. Elle apprend la sobriété, la prudence et la justice. Et il n'y a rien dans la vie de plus utile aux hommes. Donc, sans la charité, il ne peut pas y avoir de vraie vertu. C'est cette contrainte, hein. Donc c'est raide. C'est l'application nette de la parole de Dieu telle que saint Paul nous dit. Si je prends le texte de saint Paul, alors vous allez voir. Je ne veux pas dire qu'on va humaniser la parole de saint Paul, mais on va faire des petites distinctions. Vous voyez, c'est utile de faire des petites distinctions pour voir que, attention, attention, c'est vrai, au point de vue de la finalité, c'est vrai. C'est la charité qui me donne la finalité. Et si je n'ai pas la finalité, alors, voici l'argumentation. La vertu est ordonnée au bien. Vous voyez, c'est très intéressant au point de vue article pour voir la différence entre... Le point de vue, il est très très net de certains textes de l'écriture, comme ça, qui sont une netteté. et puis de voir comment, je ne veux pas dire que la théologie va diminuer l'absolu, mais on voit comment la théologie pourrait diminuer l'absolu. Et c'est à partir de là qu'on va naître la casuistique. Vous voyez ? Alors on va diminuer. La vertu est ordonnée au bien, comme on l'a établi précédemment. Or, le bien, c'est principalement la fin. Car ce qui est moyen pour la fin n'est appelé bien qu'en raison de son ordonnance à la fin. Donc, de même qu'il y a deux sortes de fins, l'une dernière, l'autre prochaine, de même il y a deux sortes de biens, l'un dernier, l'autre prochain particulier. En réalité, le principal et ultime bien de l'homme, c'est de posséder Dieu. C'est mon bien d'adhérer à Dieu, dit le psalmiste. Et c'est à cela qu'est ordonné l'homme par la charité. Quant au bien secondaire et pour ainsi dire particulier de l'homme, il est double. L'un qui est véritable bien, puisqu'il a de quoi en lui-même être ordonné au principal bien qui est la fin dernière. L'autre qui est bien selon les apparences, mais sans l'être vraiment, car il éloigne du bien final. Ainsi donc, il est clair que la vertu absolument véritable, virtus vera simpliciter, applaus, donc la vertu prise d'une façon absolue, est celle qui est ordonnée au bien principal de l'homme. La vertu étant, selon le philosophe, la disposition de ce qui est déjà parfait à ce qu'il y a de meilleur, à ce qu'il y a de mieux. Ça, c'est une très belle définition de la vertu. La disposition de ce qui est déjà parfait à ce qu'il y a de mieux. C'est pourquoi il ne peut y avoir de vraie vertu sans la charité. Mais si l'on envisage la vertu par rapport à une fin particulière, il peut y avoir vertu sans charité, en tant qu'elle se rapporte à ce bien particulier. Si ce bien particulier n'a que l'apparence et non la réalité du bien, la vertu qui ordonnera l'action à la conquête de ce bien ne sera pas une vertu véritable, mais un faux semblant de vertu. Ainsi, comme le dit saint Augustin, on ne tiendra donc pas pour vertu vraie la prudence des avares, ruminant leurs divers genres de lucre. La justice des avares faisant fi des biens d'autrui, par peur qu'il leur arrive de grands dommages. La tempérance des avares, réfrénant la convoitise de sensualité trop dispendieuse. La vertu des avares, la force des avares, qui, pour fuir la pauvreté, passerait, comme dit Horace, à travers la mer, les rochers et les flammes. C'était merveilleux. C'est du Saint-Augustin dans toute sa splendeur. C'est un peu rhétorique, mais c'est très joli. Votre ami, comme sermon, c'est magnifique. Voilà. Les avares en pâme. Mais si bien, mais si ce bien particulier est un vrai bien, par exemple la défense de la cité, ou quelque œuvre semblable, la vertu qui s'y ordonne sera une vertu véritable, mais elle demeurera imparfaite, à moins qu'elle ne se réfère au bien final de la charité. De tout ce qui vient d'être dit, il faut conclure qu'absolument parlant, il n'y a pas de vraie vertu sans la charité. Secundum simpliciter vera virtus sine caritate non potest esse. Donc vous voyez la différence entre l'argumentation théologique et la conclusion, c'est qu'il y a secundum plus. C'est à côté du simpliciter, on reconnaît qu'il peut y avoir une vraie vertu, mais elle n'est pas parfaite. La vraie vertu du soldat qui combat pour sa patrie. La vraie vertu de l'ouvrier qui travaille pour gagner le pain de sa maison. C'est une vertu de force, il tient bon, et il travaille régulièrement. Il a de l'ardeur dans son travail, pour le pain quotidien de sa famille. Mais comme ce n'est pas relié à la fin, ce n'est pas une vertu parfaite. C'est très très joli ça, parce que c'est ça le réalisme de la vie, hein, c'est ça qu'on voit. Vous voyez des gens qui vous disent, ah ils sont si vertueux, mais ils n'ont pas l'amour de Dieu. En réalité, ils ne sont pas pleinement vertueux. Ils sont vertueux dans tel ou tel secteur. Sont vertueux à l'égard de l'amour qu'ils ont pour leur famille. Ils sont vertueux à l'égard de l'amour qu'ils ont pour leur femme. Ils sont vertueux à l'égard de l'amour qu'ils ont pour tel ou tel homme. Alors là, ils sont vertueux. Ils ont une capacité d'offrande, une capacité de sacrifice, en raison de cette fin particulière. Mais ils ne touchent pas la fin dernière. Ça, c'est très très important comme manière de saisir la chose. Alors, deuxième objection. La charité ne peut... Pardon, la première objection. La première objection. Le propre de la vertu est d'accomplir des actes bons. Mais ceux qui n'ont pas la charité accomplissent certains actes bons, comme de donner des vêtements à ceux qui sont nus, de nourrir les affamés, et autres bonnes œuvres semblables. Il y a donc véritable vertu sans la charité. Réponse de saint Thomas. Celui qui n'a pas la charité peut agir d'une double façon. Ou bien il agit en raison de son défaut même de charité. Par exemple, quand il fait quelque chose qui se rapporte à ce qui exclut en lui la charité. Un tel acte est toujours mauvais, comme le dit saint Augustin. L'infidèle, en faisant acte d'infidélité, commet toujours un péché. Vêtirait-il un pauvre ou ferait-il autre chose s'il accomplit cet acte en l'ordonnant à prouver son infidélité? Je suis un infidèle, mais je suis capable de poser cet acte de vertu. Ou bien, celui qui n'a pas la charité agit non point sous l'inspiration de son manque de charité et en voulant offenser Dieu, mais en vertu de quelque don de Dieu qui est en lui, soit la foi, soit l'espérance, ou simplement la vertu d'une bonne disposition naturelle. Car ce qu'il y a de bon dans la nature humaine n'est pas totalement enlevé par la vertu, par le péché. Ainsi donc, sans la charité, il peut y avoir un acte qui, de lui-même, soit bon. Non pas cependant parfaitement bon, parce qu'il lui manque l'obligation, parce qu'il lui manque l'obligatoire ordonnance à la fin ultime. Alors, je crois que ça va bien. On va voir tout de suite la seconde objection. La charité ne peut pas être sans la foi, car, dit l'apôtre, elle procède d'une foi sincère. Or, chez les infidèles, peut se rencontrer une vraie chasteté, parce qu'ils domptent leur concupiscence, une vraie justice, puisqu'ils jugent équitablement. Sans la charité, il peut donc y avoir véritablement de la vertu. Réponse. La foi est dans l'ordre de l'action, ce qu'est le principe dans l'ordre de la connaissance spéculative. De même qu'il ne peut y avoir de science véritable sans une exacte intelligence du principe premier et indémontrable. De même, il ne peut y avoir véritable justice et véritable chasteté s'il manque l'obligatoire ordonnance à la fin, et cela par la charité. Quelle que soit d'ailleurs la rectitude de la conscience vis-à-vis d'autres femmes. C'est toujours la même idée. Hein? C'est toujours la même idée, c'est la question. Vous voyez, c'est le hiatus entre l'aspect de la structure de la vertu et la fin. La vertu est un habitus. Donc, elle implique une détermination, une structure. Et cette structure peut exister en elle-même. Sans qu'elle soit parfaite, elle n'est parfaite que quand elle est reliée à la fin. Mais c'est un petit peu ce que j'expliquais ce matin à propos de la qualité. La qualité peut avoir sa structure formelle pour elle-même. Et puis, la qualité n'est parfaitement qualité que quand elle est liée à la fin. C'est exactement la même chose. Alors, dernière objection. La science et l'art sont des vertus, comme disent les éthiques. Donc les éthiques d'Aristote. Or, ces vertus, on les trouve chez des hommes pécheurs qui n'ont pas la charité. Il peut donc y avoir de vraies vertus sans la charité. La science et l'art visent par définition un bien particulier, non pas la fin ultime de la vie humaine, à la différence des vertus morales qui font l'homme complètement bon. La raison invoquée pour la science et l'art de pouvoir se passer la charité ne s'applique donc pas aux vertus morales. C'est bien évident qu'on peut avoir l'art et la science sans la charité, parce que ce sont des vertus intellectuelles et qui regardent un bien particulier. Parce qu'elles regardent un bien particulier, je peux très bien ne pas être rectifié à l'égard de ma fin ultime et avoir d'avoir ces vertus particulières vis-à-vis de ce bien particulier. Ça, il n'y a aucune difficulté. Ce qui est difficile, c'est de voir comment il peut y avoir une vertu morale, pas absolument parfaite, mais une vraie vertu morale, sans la finalité. Bon, alors, on va s'arrêter là. La charité est-elle la forme des vertus? Remarquez que c'est la dernière. On va vite voir ça, vite, vite, à toute vitesse. Saint Ambroise affirme que la charité est forme des vertus. En morale, la forme d'un acte lui vient principalement de sa fin. La raison en est que la volonté est le principe des actes humains, dont l'objet est pour ainsi dire la forme et la fin. Or toujours, la forme d'un acte suit la forme de l'agent qui produit cet acte. Il faut donc qu'en morale, ce qui donne à un acte son ordonnance à la fin, lui donne aussi sa forme. Or, il est manifeste, d'après ce qu'on vient de dire, que la charité ordonne les actes de toutes les autres vertus à la fin ultime. Dès lors, elle donne forme aux actes de toutes les autres vertus. Et c'est pour cela qu'elle est dite forme des vertus. Si l'on parle ici des vertus, il faut l'entendre des actes de ces vertus, car les vertus ne sont pas dites formées, car les vertus ne sont dites formées que pour des actes qui tiennent de la charité leur forme. Donc vous voyez, c'est une question qui est un peu une conclusion de l'article précédent. Mais c'est une conclusion que saint Thomas prend parce que elle existe dans le langage des pères. N'est-ce pas? Et c'est pour ça que saint Thomas le prend. Mais vous voyez qu'au point de vue strictement théologie scientifique, ça n'a pas grand intérêt. C'est très curieux. C'est très important au point de vue langage courant, au point de vue spirituel. Mais au point de vue théologie scientifique, la charité est-elle forme des vertus? Elle n'est pas la forme des vertus, elle est la forme des actes vertueux. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que autrement, ce n'est pas une super vertu, vous voyez. Un petit chapeau. On aurait les vertus, et puis la charité viendrait mettre un petit couleur, un petit chapeau dessus. Non, ce n'est pas ça du tout. La charité donne un dynamisme profond à toute notre vie, pour faire que toutes les vertus particulières soient ordonnées vers la fin dernière. Et alors, ce dynamisme interne de la charité va donner la forme à toutes les diverses opérations vertueuses. Oui. Et donc, elle est forme des actes vertueux, mais elle n'est pas forme des vertus. Et c'est la manière dont saint Thomas rectifie, vous voyez, un langage traditionnel qui n'est pas tout à fait juste. Quand on dit la charité forme des vertus, cherchez bien, vous n'arriverez pas à comprendre, c'est inintelligible. Tandis quand vous dites que la charité est alors donne une orientation profonde à toute ma vie vertueuse, ah très bien, la charité donne une orientation profonde, aujourd'hui on dirait un dynamisme, hein. La charité est dynamique, alors elle me fait au poudre, alors elle est là pour donner toute une orientation profonde à toutes mes opérations vertueuses, de toutes mes vertus particulières, donc c'est par rapport aux opérations et non pas aux vertus.